France Culture.
Question d'islam par Ghalib Benchir. En ces temps de jeûne et avec la conjonction du carême et de la lunaison Ramadan, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Akram Belkaïd pour parler des chroniques du Ramadan avec cette itinérance, ce voyage intimiste au cœur du jeûne. Nous avons eu l'occasion quelquefois à cette antenne de parler des dimensions humaines, d'éducation de l'âme, de l'aspect de solidarité dans la cité, cette relation transversale entre les êtres humains durant ce mois sacré du Ramadan, et surtout de sa dimension spirituelle, cette recherche, comme certains le disent, d'ataraxie, d'absence de troubles intérieurs. Aujourd'hui, c'est plus autre chose, c'est un témoignage. Donc nous nous plaçons sur un aspect testimonial et c'est Akram Belkaïd qui va nous parler de l'intérieur de cette expérience du jeûne. Akram Belkaïd est ingénieur et journaliste, ayant travaillé pour plusieurs journaux de renom et actuellement est rédacteur en chef au Monde diplomatique. Akram Belkaïd, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment de nous faire l'amitié de venir, de nous parler, de partager avec les auditeurs votre expérience du jeûne. À un moment ou à un autre dans votre ouvrage, vous dites, et pardonnez-moi la question que je vous pose d'emblée, que ces questions de jeûne, de spiritualité, de prière, doivent relever de l'intimité. Donc comment avez-vous eu ce besoin ou cette envie d'en faire part?
Oui, c'est une très bonne question parce que effectivement, d'un côté, on est tenté par la discrétion et par le fait de réserver ça à la sphère personnelle, intime. Mais d'un autre côté, comme je le cite en exergue du livre, le Ramadan étant un fait social total, il est à la fois effectivement religieux, mais ce n'est pas que cela, et c'est ce que j'avais envie de raconter. C'est d'autant plus vrai que, puisqu'on parle de la France, le Ramadan est de plus en plus visible, mais année après année, je me rendais compte que c'était tout de même une inconnue pour beaucoup de gens. C'est mystérieux. Ou presque. On s'interroge là-dessus. On a des, non pas des préjugés, mais des idées reçues, notamment, c'est une période festive, point.
Et donc, d'où le Ramadan.
D'où le mot Ramadan, effectivement. Et donc, je me suis dit, et ça fait un moment que cette idée de livre tournait. Je me suis dit, il faut raconter ça, il faut raconter les divers aspects du jeûne, mais surtout ne pas en faire un livre académique. Et du coup, la chronique personnelle s'est imposée comme le meilleur, je dirais, outil pour tenter de résumer, parce qu'il y a encore mille et un aspects dans ce mois de jeûne, pour en résumer en tout cas les grandes lignes et pour essayer de faire œuvre utile aussi.
Alors, à juste raison, vous parlez du cas français et surtout ces sondages récents qui datent de quelques semaines où il y a une affluence, une appétence, si je puis dire, notamment de la jeunesse, pour observer ce quatrième pilier de la pratique cultuelle islamique. Ils sont de l'ordre de 83%, ce qui est énorme, et il n'était que un peu au-dessus de 54% il y a de cela encore quelques années.
Oui, ça, c'est absolument important. On le voit avec toute une partie de la jeunesse qui est dans le jeûne, qui le fait savoir. Il suffit de garder un œil sur les réseaux sociaux pour voir à quel point la pratique est présente. Et alors, la question qu'il faut se poser ensuite, c'est est-ce qu'il s'agit d'une démarche 100% religieuse ou est-ce qu'elle est aussi culturelle, identitaire? Moi, je pencherais pour la deuxième piste. C'est effectivement religieux pour certains, mais beaucoup de ceux qui font le jeûne, beaucoup de ces 84% dont vous parlez, que vous évoquez, beaucoup se limitent à ça. C'est-à-dire que ils ne vont quasiment jamais à la mosquée ou pas du tout. Et donc, le ramadan est comme une sorte de rattrapage à la fois religieux, identitaire. C'est le moment où ils se sentent pleinement eux-mêmes, où ils n'ont pas peur de le montrer et où, ma foi, ils sont aussi... Il y a une sorte d'émulation sociétale puisque ils sont entourés de gens qui le font aussi. Et c'est intéressant aussi de faire un parallèle avec la jeunesse catholique puisque il y a pas très longtemps, le quotidien La Croix relevait aussi que beaucoup de jeunes Français aujourd'hui font le carême. Alors le carême, c'est pas du tout la même chose que le ramadan, mais c'est tout de même il y a quand même des ressemblances. Et c'est intéressant de voir qu'une partie de la jeunesse française, qu'elle soit musulmane ou catholique, éprouve le besoin de passer par ce rite unitaire, unitariste, qui fait qu'on a l'impression, en tout cas qu'on sent, qu'on fait partie d'un bloc de la société, d'un compagnonnage général, on partage la même chose, et c'est assez, c'est effectivement une rupture, en tout cas une grosse évolution par rapport aux décennies passées, et je ne parle même pas de l'époque où le ramadan était totalement invisible, où les premiers arrivants, en tout cas les immigrés de la première heure, jeûnaient, mais vraiment dans la discrétion la plus totale, et la société l'ignorait. Aujourd'hui, la société de consommation a bien repéré ce qu'elle pouvait tirer du ramadan, et il n'y a qu'à rentrer dans une grande surface pour s'en rendre compte.
Oui, Akram Belkaïd, vous parlez des immigrés comme si le ramadan était un fait inhérent aussi à l'immigration, mais la discrétion que vous avez évoquée concernait aussi les citoyens français qui observaient le jeûne du mois de ramadan, mais ça n'était pas un fait social total, comme vous l'avez évoqué, alors que maintenant, même les grandes surfaces, les grandes enseignes, en parlent avec des phrases de type « Ramadan Karim » ou « Ramadan Moubarak » qui veut dire « béni soit le mois » en quelque sorte.
Absolument, avec des emplacements aussi spéciaux dédiés. Alors, il y a des décorations. Je dirais que c'est pas toujours du meilleur goût, mais il y a des lunes, il y a des croissants lunaires. J'ai même vu des chameaux. Donc voilà, il y a un peu de folklore autour de tout ça. Mais l'idée étant que on sait qu'en France, les ménages qui font le ramadan, en tout cas, on constate une hausse de 4 à 6% des dépenses. C'est une vraie manne. Et le capitalisme, c'est ça aussi. Hein. Donc, ça va chercher le client avec ses besoins. Et donc, tout le monde peut se rendre compte que le ramadan est là. Alors que jadis, vous avez tout à fait raison, il fallait lire un article dans la presse et encore pour en avoir connaissance.
Oui. Alors, il y a une préparation et vous évoquez les fameux 40 jours qui précèdent le début du jeûne du mois de Ramadan avec cette fameuse nuit du doute sur laquelle nous allons peut-être nous appesantir quelques instants. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire des 40 jours ?
Alors, c'est une pratique. Moi, je l'ai toujours eu en tête parce que j'ai toujours vu, et je parle là de ma jeunesse et de mes premiers temps d'adulte en Algérie, de gens qui, par exemple, qui pendant l'année peuvent boire de l'alcool, ce qui est prohibé par l'islam, mais qui s'arrêtent de boire parce qu'il y a une sorte de préparation physique pour être apte à faire le ramadan. Ça ne relève d'aucune règle théologique. J'ai eu beau chercher, j'ai eu beau interroger autour de moi, j'ai essayé de contacter, j'ai contacté des érudits qui m'ont dit « mais enfin, tout ça est étrange et on ne comprend pas d'où ça vient ». Mais il n'en demeure pas moins que c'est une pratique très forte. Et au-delà de ça, donc de cette période, ce qui est fascinant, mais je me suis pas trop apesanti là-dessus, même si j'ai cité des exemples, ce qui est fascinant, c'est cette aura du chiffre 40, du nombre 40, qu'on retrouve partout. Qu'on retrouve, je cite le mois d'or en Asie, qui est que la femme qui vient de donner naissance à un bébé, pendant 40 jours, elle est considérée comme reine, et donc on doit la délester de toutes les tâches possibles et inimaginables. Il y a les 40 jours de deuil, c'est un chiffre qui, pour moi, ça mériterait une exploration.
Petit à petit, donc il y a une préparation, y compris pour ceux qui s'adonnaient aux boissons fermentées et alcooliques. Je dis d'emblée à nos auditeurs que spécialement cette émission n'est pas d'ordre théologique et ne nous sommes pas dans une veine spirituelle, même si la spiritualité est intrinsèque aux jeunes par cette élévation. Conformément à un aphorisme prophétique bien connu, si on te cherche noise pendant que tu jeûnes, réponds paix, je suis jeûneur. Donc,
absolument, oui.
On se maîtrise, et vous le dites si bien, au moment de la colère, quand on est irrité, parce que parfois la fatigue rend irascible par moment, et c'est ça d'ailleurs le plus important. Mais là, nous sommes dans les aspects sociétaux. Et le fait de se retenir de boire de l'alcool, c'est une manière de se purifier pour accueillir ces temps bénis, sacrés du jeûne.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, dans cette préparation, pour les pratiquants, il y a aussi cette montée, je dirais, en cadence, en gamme, dans la méditation, dans la récitation du Coran, dans l'introspection. C'est on sent venir un grand rendez-vous. C'est quelque chose qui interpelle l'intérieur du corps, le vécu interne, la spiritualité. Et effectivement, c'est pas un événement qu'on ignore jusqu'au moment où il commence. On le voit, on le sent venir, et donc on s'y prépare même psychiquement, physiquement aussi, parce que ça va être un mois de... C'est une sorte d'ascèse physique. Et oui, il y a une manière de se purifier, et je pense que ça puise dans beaucoup de choses. En tout cas, ça va même peut-être au-delà des origines de l'islam.
Et on arrive à la fameuse nuit du doute, parce qu'il y a cette idée qu'il faut l'observation du croissant lunaire quant à l'observance du jeûne. Et vous avez mis en exergue ce passage de Gérard de Nerval dans son fameux voyage en Orient. Il indiqua du doigt un point du ciel où se montrait un faible croissant. C'était la nouvelle lune, la lune du Ramazan, qui se traçait faiblement à l'horizon. Parce que pour Gérard de Nerval, c'était Ramazan.
Oui.
Il le disait peut-être à la manière des Égyptiens. Donc, comment, pour le journaliste que vous êtes, il y a lieu de trancher cette affaire? Il y a les deux écoles, ceux qui sont pour le calcul astronomique et pour l'observation scientifique. Et ça règle le problème une bonne fois pour toutes. Et ceux qui tiennent mordicus à la tradition, il faut l'observation oculaire.
Oui, c'est un vrai débat qui est récurrent. Chaque année, on a droit à d'interminables discussions. Des échanges racontent dans le livre que comment dans les réseaux sociaux, tout le monde s'inquiète de savoir « bon, est-ce que ce croissant a été vu ou pas ?» En règle générale, c'est les autorités religieuses qui font l'annonce. Et c'est vrai que le problème pourrait être réglé, parce qu'il faut bien expliquer à nos auditeurs qu'il arrive parfois que le croissant ne soit pas visible, parce que pour les règles astronomiques montrent bien que la Lune peut être sous l'horizon et qu'il est quasiment impossible de la voir avec un œil humain, sachant que le Ramadan est un mois lunaire. Hein, il faut le rappeler aussi. Et on réglerait le problème par le calcul scientifique. Je rappelle dans le livre que le calcul scientifique, ça a été une des sciences les mieux maîtrisées par les savants arabes, par les savants musulmans. Et donc on est capable de déterminer aujourd'hui quelle sera la date de début du Ramadan dans 30 ans. Il n'empêche qu'il y a, comme toujours, des tenants de la tradition qui souhaitent qu'on continue à avoir cette espèce de diptyque sur l'observation par un être humain du croissant et la collecte d'informations par une autorité religieuse déterminée et l'annonce solennelle du début du Ramadan. Personnellement, je pense que on ferait bien d'accepter l'idée que le calcul scientifique réglerait le problème. On est en 2026. Les croyants sont insérés dans la vie moderne. Ils ont du travail, ils ont des obligations professionnelles. Et l'incertitude quant à la date du début et de la fin du Ramadan, parce que ça concerne aussi l'Aïd, elle est, si on peut s'en passer, pourquoi pas. Mais j'avoue que je comprends que beaucoup veuillent maintenir la tradition. C'est un fait qui interpelle. Il faut s'interroger là-dessus. Est-ce que c'est du ritualisme? Est-ce que c'est une manière de résister à la pression que nous impose le monde moderne? C'est une question. En tous les cas, il devrait y avoir débat. Je rappelle que certains dirigeants arabes ont instauré le calcul astronomique. Parmi eux, Muammar Kadhafi, par exemple, à une époque, avait décidé...
Y compris turc d'avant Tayyip Erdogan.
Bien sûr, en Turquie aussi, parce que c'est un pays aussi industriel qui a besoin de gérer son économie. Et donc ces dates d'incertitude sont toujours très très difficiles à gérer, parce que, notamment pour la fin du Ramadan, parce que ça veut dire des congés, ça veut dire des gens qui... ça veut dire des allers-retours, des transhumances énormes.
Je raconte. Là, vous parlez des sociétés dites majoritairement musulmanes.
Exactement. Mais même en France, oui. Si vous voulez, quelqu'un qui jeûne aujourd'hui, qui prévoit de prendre quelques jours pour l'Aïd ou une journée pour l'Aïd, il serait content qu'on lui dise de manière claire que l'Aïd, c'est le 18 mars, de manière à pouvoir dire à son patron, je serai en congé le 18 mars. Dire au patron, je serai en congé le 18 ou le 19, parfois c'est peut-être possible, mais ça ne l'est pas toujours.
Oui. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de ces chroniques du Ramadan avec Akram Belkaïd, journaliste, rédacteur en chef au Monde diplomatique. Vous avez une formation aussi d'ingénieur et que vous avez pratiqué et vous êtes Akram Belkaïd aussi un journaliste reconnu et vous avez travaillé pour de très grands journaux. Je cite le quotidien d'Oran, La Tribune. Et là, avec vos chroniques, et c'est le témoin qui parle, j'ai noté vos itinérances de par le monde. Certes, Paris et quelques arrondissements parisiens. Ce va-et-vient dans le temps, vous parlez notamment de l'Algérie et de la Tunisie. Mais il y a New York, Mascate, dans le Sultanat d'Oman, la presqu'île du Sinaï, un peu partout. J'ai noté cet épisode, justement, lorsque vous étiez en Égypte et au Sinaï, et vous étiez dans une voiture qui est tombée en panne juste avant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, et puis un bédouin qui vous a reçu enfin, vous étiez un groupe et qui vous a accueilli.
Absolument, c'est une expérience qui a été assez marquante. Pour résumer, nous faisions route, le chauffeur de taxi qui était donc égyptien, mais venant de la vallée du Nil, et moi-même, et nous roulions vers Sainte-Catherine, là où se trouve le fameux monastère, le Mont Sinaï, qui est un lieu de pèlerinage, mais aussi un haut lieu de plus en plus touristique, de par la volonté du gouvernement égyptien. Et le Sinaï, il y a beaucoup de barrages de police, on a été retardé, donc finalement la voiture est tombée en panne à une petite heure de la rupture du jeûne, et on n'avait pas grand-chose, et un bédouin nous a invités à partager son repas. Il faut savoir que dans le Sinaï, il y a deux types de populations. Vous avez les Égyptiens de la vallée du Nil qui viennent mettre en valeur, qui ont du travail, etc. Mais il y a plusieurs tribus bédouines qui sont donc les habitants originels de cette péninsule et qui font face à beaucoup d'ostracisme. Et donc le chauffeur de taxi était assez inquiet parce qu'il avait énormément de préjugés à l'égard de ces bédouins. Mais nous avons été reçus, nous avons mangé un repas des plus modestes, en silence, sans trop parler. Notre hôte a refusé qu'on le paye. Et c'est des expériences qui sont très simples, qui sont presque banales, mais qui vous marquent parce que c'est l'idée du partage, c'est l'idée de la solidarité et de l'idée de qu'au-delà des différences, puisque encore une fois, on sentait bien l'animosité du chauffeur de taxi à l'égard du bédouin, la réserve prudente du bédouin à l'égard de ce chauffeur de taxi, et moi au milieu qui essayais d'apaiser les choses. Mais en tous les cas, le ramadan, c'est ça aussi. C'est le fait d'aller au-delà de ce qu'on fait d'habitude, de partager et d'ouvrir sa table à des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est une pratique qui perdure. Et là, pour le coup, en termes de tradition, je trouve que c'est des traditions absolument exceptionnelles qu'il faut conserver et défendre.
Et pour revenir à la gamme de situations qui décrit des ruptures du jeûne, donc ce ftour, parce que vous préférez ftour à iftar. Iftar serait de l'arabe châtié, et à juste raison, vous le soulignez, alors que ftour, c'est de la langue vernaculaire, mais l'un comme l'autre désigne ce repas de rupture du jeûne. Et c'est vrai que ça vient de l'arabe fatara, qui veut dire rompre, séparer, distinguer, etc. Et donc, ça va du petit restaurant modeste à Ménilmontant ou à Barbès, et néanmoins ce qui est servi, et ce sont des mets exquis et succulents, jusqu'à un hôtel, dites-vous, 7 étoiles à Abu Dhabi. Et donc, c'est une expérience comme une autre de ce repas pantagruélique, dans certains cas, de rupture du jeûne.
Oui, je crois qu'on pourrait faire un documentaire sur et l'intituler « Mille et un iftar ». Et d'ailleurs, pour ouvrir la parenthèse, je crois que le terme « iftar » s'est imposé en France, puisque les non-pratiquants qui connaissent un peu maintenant le ramadan disent « iftar ».
Il y a même des iftars républicains.
Il y a des iftars républicains, il y a des iftars dans les mosquées, il y a des iftars collectifs. Donc ça y est, je crois que ce mot s'est imposé malheureusement pour ceux qui défendent le mot « ftor ». Mais oui, donc il y a toute une gamme possible. Il y a ceux qui se pratiquent en famille, bien entendu. Ça a longtemps été, et c'est la majorité, c'est un moment familial par excellence. Mais effectivement, dans le développement, encore une fois, à la fois du capitalisme, mais aussi de l'existence de communautés halogènes, de gens qui vivent de diasporiques, de la diaspora, on a effectivement, à Paris, la possibilité de voir à quoi ça ressemble dans des restaurants qui servent vraiment des repas pour l'occasion, qu'on retrouve dans des quartiers populaires de Paris. Et ça fait contraste aussi avec ce luxe, cette abondance que l'on retrouve dans les grands hôtels du Golfe, où on sert effectivement des repas moyennant finances, bien entendu, et avec des buffets pantagruéliques. avec une somme de nourriture, mais vraiment, on a, parce que c'est pas simplement, c'est des buffets qui regroupent toutes les nourritures du monde, et donc c'est un bonheur pour les touristes locaux, pour les occidentaux locaux, il y en a beaucoup qui vivent dans cette région du monde, mais aussi pour les familles, parce que, eh bien, ça permet aux femmes de ne pas cuisiner. Et ça fait une journée de fatigue en moins, et pour autant, il faut avoir...
Du moins, une journée de répit.
Une journée de répit, exactement. Une journée de répit, mais ça oblige à dépenser beaucoup. Et c'est stupéfiant. Et puis, j'évoque aussi d'autres types d'iftar.
Celui de l'ambassade des États-Unis à Paris,
ah oui,
avec l'appel du muezzin au sein même... De l'ambassade.
De la résidence de l'ambassadrice ou de l'ambassade, effectivement, de l'ambassadeur. Alors, je suis plus sûr que cette tradition perdure parce que, avec la nouvelle administration américaine, je crois que, je suis pas sûr que l'ambassade des États-Unis à Paris ou ailleurs refasse la même chose. Il n'en demeure pas moins que, à la Maison-Blanche, le président Trump organise chaque année des iftars où il invite les représentants des communautés musulmanes dont certaines ont voté en masse pour lui, conséquence de la guerre à Gaza et de l'impopularité de Biden, de Joe Biden au sein de ces populations. Donc il y a ça aussi, il y a des iftars offerts par des entreprises, il y a des iftars offerts par des associations. Ce que je préfère, ce sont les iftars solidaires, c'est-à-dire c'est des associations qui ouvrent, ça peut être des mosquées, mais pas que, qui ouvrent leurs portes à tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience, par exemple, à la fin des années 2010, du drame, enfin de la difficulté dans laquelle vivent
les étudiants
en France. Et ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça a l'air de rien. Peut-être que pour beaucoup de gens, c'est connu et c'est une évidence. Dans tous les cas, pour ce qui me concerne, voir autant de jeunes venir, mais parce qu'il y avait un repas chaud et que pour eux, ça leur permettait une économie et de manger à leur faim, parce que selon les études, vous avez un bon nombre d'étudiants en France qui sautent un, voire deux repas par jour. C'est absolument, terrifiant par rapport à...
Et là, c'est indépendamment de l'appartenance confessionnelle.
Ah, mais complètement.
Oui, bien
complètement.
Sûr.
Puis, il y a les iftars qui peuvent avoir lieu dans les foyers d'immigrés. Vous savez, c'est des gens qui ont quitté leur pays, c'est souvent des célibataires, leurs familles sont restées, notamment en Afrique subsaharienne. Et là aussi, il y a une espèce de collectivité qui s'organise autour de ces repas. On partage, on cuisine ensemble et... Et bon, ça n'efface pas la nostalgie du pays, du repas familial, mais en tous les cas, ça donne un peu de chaleur à ces gens qui sont le reste de l'année toujours en difficulté, je dirais, personnelle par rapport à leur éloignement, par rapport à ce qu'ils subissent. Et puis j'aime beaucoup ces iftars collectifs qu'on peut organiser dans les villes, parce que c'est de la convivialité, et on est en France, donc ce terme de convivialité, la France, on l'aime bien, donc il n'y a rien de mieux que s'installer avec plein de gens autour d'une table, de partager le repas. Par contre, je me faisais la réflexion ces derniers temps, je n'aime pas trop les prières collectives dans les rues, je n'ai pas apprécié la publicité faite autour des prières collectives à Times Square, à New York, je vois pas trop le besoin. Je comprends qu'il y ait un iftar, et ça, je trouve ça très bien, et que ce soit ouvert à tout le monde. Il y a des mosquées aux États-Unis, il y a des salles de prière. Le faire à New York, en plein milieu d'une avenue où sont passées les voitures, etc. et tout, je sais pas. J'ai beaucoup de peine avec ça. On me le reprochera peut-être, mais en tous les cas...
Enfin, le bon sens dira que c'est à juste raison que vous mettez le doigt sur ces déviances en réalité, parce que confondre un iftar collectif où il y a de la solidarité et du partage, et puis le fait de s'exhiber en train de prier en pleine rue, ça n'a pas de sens en réalité. Mais bon, sur ce point de partage et de iftar ou ftour organisé par les entreprises, j'ai souri en lisant un passage lorsque vous avez évoqué, je crois, quelque chose qui a été organisé par le patronat français pour des chefs d'entreprise algériens qui sont venus durant la période du mois de Ramadan. Ils leur ont offert naturellement un iftar, mais la chorba y manquait. Et donc, nos amis algériens n'étaient pas heureux de ce repas de rupture du jeûne.
Oui, non seulement la chorba manquait...
Il n'y avait pas les dates non plus.
Il n'y avait pas les dates non plus, mais je ne vais pas dire le pire, mais c'est qu'à la place, il y avait une soupe de potiron. Et c'est vrai
ce qui était un cas aggravant.
Ce qui est pour le jeûneur. Néanmoins, je me souviens des discussions qu'on avait eues avec les gens là. Ils étaient partagés. Ils étaient partagés parce que d'un côté, ils étaient tout de même touchés que le patronat français ait pensé à organiser un iftar. C'était un geste intéressant.
À la fois d'amitié et de
bien
respect.
Bien sûr, et de générosité. Mais effectivement, ce que ça traduisait, c'est que peut-être qu'il aurait fallu que ceux qui organisaient ce repas prennent juste 2 minutes et posent la question à quelqu'un de confession musulmane ou quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, et ça aurait permis d'arranger les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, dans les rapports entre peuples, certaines institutions commettent, non pas des bévues, parce que c'est pas grave du tout, mais commettent des maladresses ou des inexactitudes qui auraient pu être facilement évitées si on avait pris la peine d'interroger des gens concernés. J'en veux pour preuve, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est pour qu'on comprenne l'esprit de mon raisonnement. Il y a dans Paris parfois des boutiques qui a avec des signes de bienvenue, des messages de bienvenue, welcome, hello, bienvenido, etc. Et il y a en arabe aussi.
Marhaba.
Sauf que le marhaba arabe est écrit en lettres détachées et à l'envers. C'est-à-dire que les gens sont allés chercher ça sur Internet. Ils l'ont imprimé sans même se rendre compte que ça ne voulait absolument rien dire, que c'était illisible, qu'il fallait lire ça de gauche à droite, etc. et tout. Alors que 2 secondes de discussion auraient permis de... Bon, ça vaut aussi pour les pays du Maghreb qui parfois, de plus en plus d'ailleurs, on a parfois des enseignes qui sont un peu folkloriques quand il s'agit d'utiliser la langue française.
Oui, c'est vrai. Mais tout ça renvoie à l'humanité et dans sa diversité. Mais j'étais sensible quand vous avez convoqué, en tout cas John Donne, lorsque dans son fameux poème « No man is in an island », que nul homme ou personne n'est une île en réalité, et chaque être est en soi un continent, et à la fin... Comme il le dit lui-même, je suis membre du genre humain et aussi, il ne faut pas jamais demander pour qui sonne le glas, parce qu'il sonne pour toi quand quelqu'un doit mourir. C'est cette solidarité qui est importante et qui est mise en évidence durant le mois du jeûne. Enfin, en réalité, on est tenu d'être solidaire et attendri par le sort des nécessiteux tout le temps. Mais beaucoup plus qu'à l'accoutumée, durant cette période-là, il y a une inclination à vouloir partager avec autrui.
Sinon, à quoi bon jeûner si on ne partage pas ? À quoi bon jeûner si on n'est pas encore plus à l'écoute que le reste de l'année vis-à-vis de ceux qui galèrent, sont en situation difficile, populations de Gaza, les populations du Soudan, les populations du Tibet, les populations du Kivu dans la République démocratique du Congo. Il y a une souffrance à l'échelle planétaire qui est là. On n'est pas obligé de l'endosser à tout seul, mais on est tout de même obligé de ne pas se contenter de son propre égoïsme. Et le Ramadan est une incitation à s'intéresser à autrui. Et quand je dis s'intéresser à autrui, ça passe aussi par la question de la lecture, de la découverte, de l'examen, de l'état du monde tel qu'il est, et de manière à ne pas se sentir totalement à l'écart ou au-dessus de tout ça.
Oui. Vous dites aussi, à Campbell Tide, que des cinq sens, celui qui est le plus sollicité durant le jeûne du mois de Ramadan est plutôt l'odorat. Et donc, il y a des senteurs qui finalement alertent le jeûneur, sauf que le jeûneur, lui, a l'espoir de rompre son jeûne le soir. Et s'il est au bord de l'inanition, il peut rompre son jeûne à tout moment. En revanche, certains pour qui la faim est imposée sans cet espoir-là, rend le jeûneur dans une situation de compassion, d'écoute et d'être attendri quant au sort des nécessiteux.
Absolument. On ne perçoit en jeûnant que, je dirais, une part infime de ce que peut ressentir celui qui a faim et qui ne pourra pas manger. Parce que, effectivement, quand on jeûne, on sait qu'il y a un repas qui nous attend. Comme vous le dites si bien, on peut très bien arrêter son jeûne parce qu'on se sent pas bien. Et d'ailleurs, c'est une incitation.
Et c'est une recommandation.
C'est une recommandation, beaucoup. Et ça, on parlait des jeûnes tout à l'heure, par exemple.
Les jeûnes sont l'accent circonflexe.
Oui, de la jeunesse, exactement. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un enseignant, qui me disait qu'il avait eu des cas de jeunes qui se sont sentis mal pendant ses cours. Et je lui ai dit, mais il faut leur dire, c'est incroyable qu'ils ne sachent pas que le jeûne où l'on s'impose, où l'on se fait du mal à soi, dans le canon musulman, c'est presque comme si ça ne comptait pas, parce qu'on s'inflige du mal. On peut très bien arrêter, manger, c'est pas la fin du monde, c'est pas le jeûne du Ramadan, c'est pas une performance arithmétique, c'est pas un record à battre, c'est-à-dire où il faut tenir le coup et compter le nombre de jours qu'on jeûne, etc. et tout.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons particulièrement de l'expérience d'un jeûneur dans des chroniques, les chroniques du Ramadan, et c'est un voyage intimiste au cœur du jeûne avec Akram Belkaïd. Akram Belkaïd est ingénieur et journaliste, rédacteur en chef au Monde diplomatique. Et pour cette dernière partie, cher Akram Belkaïd, on va parler de liberté, et notamment de liberté de conscience. Vous êtes un témoin vous-même du temps où, aussi bien en Algérie, en Tunisie, au Maroc et ailleurs, en Turquie, les restaurants pouvaient et étaient ouverts en plein jour, puisque le jeûne est diurne, du lever du jour jusqu'au crépuscule. Et là, ça n'est plus le cas. Et c'est navrant, parce que le maître mot est la liberté. Ceux qui déjeunent, au sens premier du terme, les non-jeûneurs, doivent pouvoir le faire sans cette chape de culpabilité.
Pour moi, la société musulmane idéale, chacun a sa société musulmane idéale, la mienne serait que, effectivement, ceux qui n'ont pas envie de jeûner ne soient pas ostracisés, qu'ils puissent déjeuner quand ils veulent.
Parce qu'ils ne le furent pas.
Ils ne le furent pas, et comme vous l'avez dit, moi j'ai vécu ça, j'ai vu ça de mes propres yeux, donc je sais ce que c'est, et puis j'ai vu des familles où il y avait celui qui jeûne et celui qui jeûne pas. Parfois ça change au cours du mois, parfois les gens sont fatigués, à partir du 15e, 20e jour, il y a la fatigue dont les gens arrêtent de jeûner, enfin, ou ne jeûnent pas du tout, ce qui n'en fait pas des gens moins honorables que d'autres. Et donc, on a aujourd'hui cette espèce de chape de plomb qui fait que si on n'est pas jeuneur, eh bien, on est ostracisé, on vous montre du doigt. Ça vaut dans nos pays, dans les pays du sud de la Méditerranée, ça vaut un peu moins quand même au Proche-Orient, mais tout de même. Mais on a comme une espèce de recul, de régression par rapport à cette question. Et finalement, ça interroge sur le ritualisme, c'est-à-dire que finalement, interdire aux gens de manger en plein jour, c'est très facile. C'est plus facile que d'avoir en soi un cheminement spirituel, mystique, religieux. Il est tellement plus facile d'élaborer des règles, de mettre une espèce de nomenclature de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et on s'en rend compte même, je cite dans le livre, les questions qu'un imam... c'est un imam sur Facebook qui dit « Écoutez, chaque année j'ai les mêmes questions, donc cette année je vais vous redonner les mêmes réponses, grosso modo pour que ce soit intérêt. Par exemple, il n'est pas interdit de se brosser les dents, il n'est pas interdit de se mettre du parfum. » Voilà, ça devrait trancher l'affaire. Sauf que on voit que dans les réponses, vous avez des millions de fatwayeurs, de gens spécialistes de tout, qui disent oui, mais non, si jamais on se brosse les dents, qu'il y a une goutte d'eau qui rentre dans le gosier, c'est fini. Enfin, c'est des choses totalement puériles. C'est une perte d'énergie. C'est pas ça. Ça devrait pas être ça. Et par contre, les gens perdent énormément de temps à s'embarquer dans ce genre de discussions stériles. Et j'y vois pour ma part une facilité. Ça permet de vraiment se poser en bon croyant sans avoir à faire d'efforts par ailleurs sur le plan spirituel.
Vous évoquez une anecdote, et même au-delà de l'anecdote, un programme à la télévision dans les années 70, et notamment la télévision algérienne, genre caméra cachée. Et là, il y a un jeune homme qui se met à côté d'un vieux monsieur sur un banc dans un jardin public. Durant le jeûne du mois de Ramadan, il met juste entre eux un bon sandwich. Et curieusement, un policier passe et étance l'un ou l'autre en réalité de la présence de ce sandwich. Et le jeune homme accable le monsieur en disant que s'il lui appartient. Et là, le vieux monsieur, bien entendu, s'énerve et veut laver son honneur d'être accusé à la fois d'un déjeuneur ou d'un non-jeuneur en plein jour, et en plus, le fait d'être accusé injustement, alors qu'au préalable, il ne s'offusquait pas de la présence du sandwich. Aujourd'hui, une telle scène, fut-elle filmée pour une caméra cachée, est impensable.
Absolument. Moi, ce que j'aime dans cette caméra cachée, caméra invisible des années 70, c'est l'attitude première du vieux monsieur qui est totalement tolérant. Lui, jeune, il y a un jeune homme en jean qui s'assied à côté de lui, jean patte d'éléphant qui s'assied à côté de lui avec un casse-croûte. Il ne dit absolument rien. Il regarde et puis il regarde ailleurs. Il n'est pas concerné. Aujourd'hui, ce serait totalement différent parce que il lui ferait la morale, le ton montré, etc. et tout. Et on a beaucoup de gens qui sont dans une... Ils se sentent l'obligation de vous tenser, de vous dire que si vous vous êtes rasé le matin et que vous avez mis une crème ou un aftershave, ça passe pas. Que il faut faire attention à ce qu'on regarde dans la journée, que le seul fait d'écouter de la musique pourrait vous faire constituer une rupture du jeûne. Et ça, c'est franchement insupportable. Et il faut avoir le courage de le dire.
Et puis, il y a, hélas, ces fameux articles de loi qui font que le fait de déjeuner est passible de passer devant les tribunaux. Et donc, judiciariser cette affaire-là est un non-sens total. Et ce n'est pas à l'administration d'entrer par effraction dans les consciences des citoyens.
Absolument. Alors, beaucoup de dirigeants du Maghreb expliquent qu'ils ont passé ces lois pour justement prévenir des troubles à l'ordre public. en disant que s'il y a des gens qui mangent dehors, il y en a d'autres qui pourraient s'en offusquer, ça pourrait déclencher des bagarres, etc. Je pense que vous avez raison, il faut inverser le problème. C'est le libre choix de chacun et je ne vois pas pourquoi on criminaliserait ce type de comportement. Ceux qui ont envie de manger, qu'ils mangent. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de Ramadan en Turquie. C'était au tout début de la période Erdogan, donc il n'y avait pas la chape de plomb qu'on connaît, enfin le poids un peu qu'on connaît aujourd'hui. Mais vous aviez des gens qui étaient attablés à tous les cafés et puis vous avez ceux qui faisaient leurs courses pour le Ramadan et je dis pas que c'était merveilleux, que tout se passait bien. Il y a toujours des réflexions, il y a toujours des regards en biais, il y a toujours des regards noirs. Mais en tous les cas, ça fonctionnait. Et je pense que ça devrait fonctionner. Et ça devrait fonctionner aussi ici, aussi en France. C'est-à-dire que dans une classe où il y a 20 élèves de confession ou de culture musulmane, les 2-3 qui ne veulent pas jeûner doivent avoir le droit de ne pas jeûner et de ne pas être ostracisés par leurs camarades.
Non seulement le droit et la liberté, etc. Il y a un autre aspect, puisque nous nous approchons du terme de l'émission, qui est le fait de dépenser davantage, vous l'avez évoqué, mais qu'il ne faut surtout pas aller faire les courses en état de jeûne, puisqu'on achète davantage. Et puis un de vos amis qui vous demande de l'accompagner jusqu'à Melun, de Paris à Melun, parce qu'on lui avait parlé d'un boucher, ou en tout cas une grosserie, qui est un peu spéciale.
Il est difficile quand on jeûne de lutter contre les pièges que pose le cerveau. L'esprit pense nourriture, et si on le laisse, il pensera nourriture en permanence. Parce qu'on a faim, et parce qu'on a soif. Mais c'est surtout parce qu'on a faim. Et comme on a faim, on pense nourriture dès le réveil, on pense nourriture à midi, on pense nourriture à l'après-midi. Et plus on approche de la rupture du jeûne, et plus on peut être obnubilé par la nourriture. Donc effectivement, ça peut mener à des comportements que la grande distribution a intégrés. Elle le sait, elle a compris, elle sait que ce manque de nourriture, cette obsession de la nourriture, fait que les gens vont dépenser plus que prévu, vont faire 40 kilomètres parce qu'on leur a raconté que tel boucher faisait telle ou telle entrecôte ou telle ou telle escalope. Il y a une espèce d'obsession de la nourriture. Chaque année, au début du mois, on a deux catégories de personnes, de métiers, enfin de personnes qui mettent en garde les croyants. On a les oulémas qui disent attention, mais le Ramadan, c'est pas juste un mois.
Les oulémas sont les docteurs de la loi, pour faire simple, des savants religieux.
Des savants religieux qui disent, ou des simples imams qui disent aux fidèles, les gars, c'est pas juste une histoire de manger et de se remplir la panse. Et puis, il y a les médecins qui disent, attention, l'excès dans tout est dangereux. Et le Ramadan, c'est un mois d'excès parfois. Et donc, il y a ces deux réalités qu'il faut prendre en compte et qui parfois alimentent une certaine, je dirais, colère, y compris de gens qui jeûnent ou qui ne jeûnent pas, mais qui vivent dans des pays où la majorité jeûne et qui disent, voilà, on rentre encore dans une période où les gens vont faire n'importe quoi, vont dépenser, vont gaspiller et puis vont, d'une certaine manière, mettre en danger leur santé parce que trop de sucre, trop de graisse, trop d'aliments riches et protéinés, etc. Mais bon, moi, ce que je résume, j'ai cité dans le livre, deux ouvrages dans le livre, il y en a un qui s'appelle « Bien portant avec la médecine du prophète » et qui fait référence à l'ouvrage « La médecine du prophète » de Suyuti, qui est un best-seller. Bon, alors, et on se rend compte qu'en fait, ce sont des conseils que n'importe quel nutritionniste pourrait reprendre à son compte aujourd'hui. Avec cette, déjà à l'époque, donc c'est un livre du 15e siècle, déjà à l'époque, cette indication, moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que l'auteur Suyuti dit bien tout de même que les médicaments, que les aliments ne sont pas des médicaments. Ils donnent la bonne santé, mais ils ne sont pas là pour guérir. Et c'est intéressant de voir que plusieurs siècles après, on est toujours à s'interroger sur ce lien entre l'alimentation et la santé.
Bien. Alors, peut-être en deux mots, alors que c'est important, ça ne sert à rien de jeûner si parce qu'on est privé de son café ou de sa cigarette, on explose et on ne maîtrise pas sa colère à la première contrariété.
Absolument, c'est une expérience ratée et voilà. Et donc on a le Ramadan, malheureusement, parfois, surtout les premiers jours, manque de caféine, manque de nicotine, beaucoup de gens peuvent sortir de leur gond et c'est toujours très regrettable comme
alors
comportement.
C'est totalement aux antipodes de ce qui est voulu par ce mois de calme, de sérénité.
Et c'est ce que leur disent les gens qui viennent les calmer d'ailleurs.
Et le second point, c'est que vous déploriez, mais tout en étant reconnaissant à celui qui a instauré cela, les fameuses nuits du Ramadan sur une chaîne publique française, où ça laissait place davantage au folklore et à la chanson en raï que à une réflexion et à une présentation aussi bien artistique que culturel de ce qui est que sont les soirées du mois de Ramadan.
Là aussi, il faudrait un ouvrage pour se pencher sur ces émissions. C'est vrai qu'il a Frédéric Mitterrand, pour ne pas le nommer, a fait rentrer le Ramadan dans la petite lucarne par un biais festif. Il a fait en sorte que beaucoup d'artistes arabes ou arabophones ou musulmans s'expriment. Mais d'une certaine manière, ça a conforté l'idée que le Ramadan, c'est juste la fête. Et bon, c'est pas grave non plus, parce que c'est autre chose. Le Ramadan, c'est aussi la fête, hein, on va pas le nier.
Il y a un aspect festif.
Il y a un aspect festif réel,
sûr.
Mais ce n'est pas que ça.
Il y a les prières surérogatoires, c'est vrai. Et il y a tout ce volet festif, le fameux feuilleton, ou les feuilletons télévisés dans les sociétés et les pays musulmans. En France, on commence plus ou moins à se rendre compte de la période du jeûne du mois de Ramadan. Mais le plus important, c'est encore une fois, non seulement agir sur ses mauvais penchants, juguler sa passion, réguler ses désirs et atrophier son ego durant cette période, mais vivre en bonne intelligence avec son entourage au sein de l'entreprise ou ailleurs, et surtout ne pas faire trop de bruit le soir pour ne pas incommoder ses voisins.
Absolument.
Bien, nous arrivons au terme de l'émission. Merci infiniment. Merci maintenant que j'ai votre approbation pour cette partie, cher Akram Abdelkhaïd. Vous nous avez livré votre témoignage et à mon avis, c'était important qu'on entende au moins un jeûneur, un ou une. Ça sera peut-être l'occasion une prochaine fois d'avoir une femme qui jeûne. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam, une émission que vous retrouverez sur le site de France Culture et vous pouvez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Emmanuel Larmin. Et la réalisation est assurée par l'ami François Connac.